Aujourd'hui, c'est un secteur numérique qui n'a pas du tout fait sa révolution, qui n'y connaît rien en éco-conception et qui continue à fonctionner de façon toujours plus lourde alors qu'on utilise de plus en plus de numérique. Et donc là, il y a une équation qui n'est pas bonne et une urgence à agir sur l'aspect environnemental.
Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Dans la Machine à Sens, nous allons à la rencontre de dirigeants, de managers de mission, qui nous expliquent leur motivation et leur cheminement vers l'entreprise à mission, mais également d'experts et d'auteurs qui viennent éclairer un sujet social, sociétal ou environnemental. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Marchand, CEO de Frugger et de Digital for Better, et auteur de 40 mots pour un numérique responsable, guide pour un numérique à impact positif en entreprise, aux éditions Contenta. L'ouvrage est sorti l'an dernier et vient tout juste d'être actualisé. Dans cet épisode, nous parlons, vous l'aurez compris, de numérique responsable. C'est un concept dont on parle de plus en plus, mais qui reste quand même assez flou pour beaucoup. Et pourtant, il nous touche directement. Que l'on soit éditeur de solutions, producteur d'objets numériques ou consommateur de logiciels ou plateformes. Avec la digitalisation de nombreux aspects de nos vies personnelles et professionnelles, la question du numérique responsable s'impose à nous. C'est un sujet que plusieurs sociétés à mission ont déjà pris à bras-le-corps, notamment les entreprises de services numériques, les ESN, celles qu'on appelait auparavant les SS2I. Mais vous verrez dans cet épisode que finalement, toutes les entreprises ont intérêt à se pencher sur le sujet aujourd'hui plutôt que demain. Cet épisode est organisé en trois temps. Un premier, de définition, sur le numérique responsable, non seulement dans sa dimension environnementale, mais également sa dimension sociale, dont on parle vraiment moins. Ensuite, Frédéric donne quelques bons conseils aux entreprises pour s'engager dans le numérique responsable. Et dans la dernière partie, je l'interroge sur quelques termes qu'il définit dans son ouvrage. Vous verrez, Frédéric ouvre tellement de pistes que forcément il y a des situations où vous direz « ça je l'ai déjà vécu ». Et inévitablement, vous demanderez « qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes pratiques ?». Je vous souhaite une excellente écoute et j'espère que vous ressortirez avec plein de bonnes idées et surtout une prise de conscience plus forte de l'importance de cet enjeu.
Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci de m'accueillir dans vos locaux parisiens, puisque le siège social est à Rennes, il y a une partie des équipes à Nantes et il y a un petit bureau aussi à Paris. Donc aujourd'hui, on va parler de numérique responsable. Donc la transformation numérique, c'est un sujet qui anime les entreprises depuis plusieurs années. Alors, c'est une nécessité pour certains. En préparant cet entretien, je me suis souvenu de ce livre de Jean-Louis Beffa il y a quelques années qui disait « Se transformer ou mourir », qui était peut-être un peu dramatique, mais bon. Et souvent, le digital a été pris sous un angle uniquement technologique. Quels outils pour quels problèmes, sans se soucier des autres impacts qu'ils pouvaient avoir, notamment ces impacts sociaux et environnementaux. Mais depuis peu, le mouvement du numérique responsable a pris de l'ampleur. Il est devenu beaucoup plus mainstream. Et justement, dans cet épisode, on va explorer comment les entreprises, qu'elles soient productrices de services numériques ou consommatrices, peuvent davantage prendre en compte les dimensions et pourquoi elles doivent prendre en compte les dimensions sociales et environnementales du numérique pour assurer une transformation durable de leur modèle d'activité. Alors Frédéric Marchand, en regardant un petit peu ta bio, je me suis dit, t'es un vrai geek. T'as fait tout ton parcours professionnel dans le digital. T'as commencé dans les années 2000 à travailler sur le CRM à une époque où je pense que cet acronyme ne voulait pas dire grand-chose pour beaucoup de monde. T'as passé pas mal de temps chez Niji aussi, où t'étais en charge de la Digital Factory. C'est-à-dire que tu t'es forgé une bonne expérience sur les sujets de transformation numérique. Et en 2020, avec trois autres associés, si je ne me trompe pas, tu as créé Digital for Better, puis Frugger, on y reviendra. D'ailleurs, félicitations, hein, puisque Frugger a récemment remporté le trophée d'or au sommet de la transformation durable dans la catégorie Governance for Positive Impact. Tu es également ambassadeur au sein du mouvement Impact France, qui je pense est un bon reflet de ton engagement très fort pour l'ESS. Et l'an dernier, tu as publié 40 mots pour un numérique responsable aux éditions Contente A, raison pour laquelle nous échangeons d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des éléments à rajouter, Frédéric?
C'est une belle bio synthétique, concise, c'est très bien, il faut que je la reprenne.
Alors justement, quand on parle de transformation numérique, comme je le disais en introduction, souvent on parle d'outils. On parle d'outils technologiques et le lien entre numérique et environnement et numérique et social généralement assez occulté. Comment tu peux l'expliquer?
Disons que c'est le numérique est quand même quelque chose de très virtuel, donc il est dans tous nos quotidiens, mais pour autant on a du mal à le rendre très concret. Donc le lien direct avec l'environnement, il est assez complexe à comprendre pour tout un chacun, et encore plus sur le lien social. Si je parle un peu de l'environnement, souvent on résume par exemple numérique environnement au data center. Je prends un exemple récent, par exemple. Il y a 2 jours, France Digital a organisé un pitch pour tous les candidats au présidentiel. Le terme de l'empreinte environnementale numérique est apparu. Ce qui est très positif, c'est qu'il était dans quasiment toutes les questions. Mais la réponse, en fait, se résumait à avoir des data centers en France et qui soient plus respectueux de la planète. Ce qui est bien, mais ce qui, en fait, n'est pas le cœur du sujet. Faut savoir que la grosse partie de l'empreinte environnementale numérique se situe pas au niveau data center, elle se situe à l'ensemble de nos devices, donc les smartphones, tablettes, PC qu'on utilise pour accéder aux services numériques. En fait, pour expliquer de façon très simple, l'empreinte numérique d'un serveur versus 100 000 PC qui accèdent à un service numérique, ça n'a rien à voir. Alors peut-être que c'est plus coûteux en termes d'empreinte écologique, de fabriquer un serveur, mais par rapport à 100 000 PC, ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, hein, l'empreinte environnementale numérique, c'est 10% de l'électricité mondiale, 4% de gaz à effet de serre, 2,5% en France uniquement parce qu'on a une électricité qui est peu carbonée. Le gros de cette empreinte est lié à la phase de fabrication des équipements, c'est environ 70%. Et donc, très clairement, un des enjeux, c'est d'allonger la durée de vie des équipements et travailler vraiment sur tout ce qui va permettre cela. Et un autre élément, pour sensibiliser les gens sur cette notion-là, c'est qu'en fait, au-delà du fait que le numérique pèse déjà de façon significative, puisque c'est plus que l'aviation civile, c'est surtout la pente qui est catastrophique. De plus en plus de données, de plus en plus de services digitalisés, de plus en plus d'utilisateurs, de devices. Et en fait, aujourd'hui, on alourdit de 20% chaque année la pollution numérique. Pour donner un autre chiffre, hein, au cours des 10 dernières années, le poids moyen d'une page web pour le même service a été multiplié de 233%. En fait, on n'arrête pas d'alourdir de couche de couche. Aujourd'hui, c'est un secteur numérique qui n'a pas du tout fait sa révolution, qui n'y connaît rien en éco-conception et qui continue à fonctionner de façon toujours plus lourde, alors qu'on utilise de plus en plus de numérique. Et donc là, il y a une équation qui n'est pas bonne et une urgence à agir sur l'aspect environnemental.
Dans ton ouvrage, il y a une comparaison que je trouve assez intéressante au tout début, qui est faite dans la préface et que tu reprends aussi en introduction sur la voiture et le numérique. C'est-à-dire, bah, pendant très longtemps, en fait, on a construit des voitures, mais sans se préoccuper de l'impact environnemental d'une voiture. Tu dis aujourd'hui, bah, en fait, le numérique doit faire la même révolution que la voiture est en train de faire. C'est-à-dire, bah, en fait, une voiture, bah, ça pollue, bah, le numérique, ça pollue aussi. C'est vraiment ça, pour toi, le changement de
C'est
paradigme?
exactement cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique est à l'image que l'industrie automobile y était il y a quelques dizaines d'années, en fait. Et donc, certains pensent que c'est juste un effet de mode. Absolument pas. C'est un vrai mouvement de transformation. C'est-à-dire que demain, l'ensemble des plateformes numériques devront être éco-conçues. On n'aura pas le choix. Et c'est un vrai chantier qui est devant nous parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui font le numérique ne sont absolument pas formées. Moi-même, je n'ai jamais été formé. Les gens qui sont en train de sortir d'école d'ingénieur, d'autres écoles, c'est pareil, c'est pas encore au programme. Donc il y a un vrai chantier et on n'aura pas le choix parce que le numérique pèse énormément. Et de toute façon, c'est plus une question de se dire c'est plus vertueux de faire un numérique responsable. C'est juste une obligation, c'est mandatory. Et j'espère les lois vont continuer à s'accélérer pour contraindre l'ensemble des acteurs à agir durablement sur cet aspect-là.
Et c'est intéressant que tu mentionnes justement cet aspect législatif, parce que pour toi, ça fait partie de la solution aussi.
Disons que ça a créé un contexte favorable. Moi, je crois pas que le législatif n'est jamais une solution, mais les lois peuvent aider. Il y a une loi récente qui est la loi RIN, donc sur la réduction de l'empreinte environnementale numérique qui a été publiée en novembre dernier, qui contraint de plus en plus d'entreprises. Mais enfin, ça incite plutôt que ça contraint. Il y avait une loi déjà sur l'économie circulaire en février 2020, dont certaines d'ailleurs se sont applicables depuis peu. Il y a eu l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité qui va arriver. Il y a eu les lois pour les opérateurs télécoms qui ont l'obligation d'afficher votre empreinte carbone sur vos usages, qui est effective depuis le 1er janvier 2022. Voilà, il y a des lois européennes aussi qui arrivent, il y a les Green Deal qui vont donner des lois qui vont inciter de plus en plus à agir sur ce sujet. Oui, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Pour prendre un autre exemple, si on parle d'allongement de la durée de vie des équipements, ça tire plusieurs sujets en fait pour réussir cela. Un premier sujet qui est en fait le reconditionner. Très clairement, il faut favoriser l'achat de matériel reconditionné. En France, hein, faut savoir que dans 88% des cas, on change son smartphone alors qu'il marche il marche parfaitement. C'est juste hallucinant. Donc il y a vraiment toute une filière de reconditionnés qui faut industrialiser. Il y a plein de petits acteurs qui font un super travail sur le terrain, mais il faut qu'on ait les plus gros acteurs, il faut qu'on favorise l'achat reconditionné. Mais ça suffit pas en fait. Pour que ça fonctionne, il y a d'autres points clés. Un premier point qui est l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que si vous pouvez pas faire des mises à jour des logiciels alors que vous avez un vieux smartphone, PC, ben, ça pose un problème. Et le deuxième point, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire que en fait, si les entreprises quelle qu'elle soit, continue à sortir les services numériques qui sont de plus en plus lourds, et ben en fait, ça oblige à renouveler son matériel, alors que c'est une idée aussi. Aujourd'hui, on peut diviser par deux l'empreinte environnementale d'un service numérique. Ça paraît énorme, c'est la réalité, parce qu'on n'a jamais rien fait. Et donc, en fait, c'est trois conditions pour agir durablement sur l'empreinte numérique, elles sont nécessaires. Et les lois peuvent aider à contraindre les entreprises à aller vers ça.
Il y a un chiffre, je l'ai plus en tête là dans l'ouvrage, mais il y a un chiffre qui est assez hallucinant sur les sites web et les fonctionnalités des sites web. C'est de se dire, en fait, c'est vrai que quand on conçoit un site web, on a beau faire des parcours utilisateurs, etc., se dire, bon, a priori, il va faire ci, il va faire ça, mais on crée toujours une myriade de fonctionnalités qui ne sont presque jamais utilisées. Je sais plus si t'as le chiffre en tête.
C'est entre 20 et 30% en fait des fonctionnalités qui sont très peu utilisées, voire pas du tout, et lorsqu'on fait des analyses d'ailleurs avec notre solution Frugger, on se rend compte que, enfin, c'est parfois même pour certaines plateformes numériques bien plus. Je pense que c'est lié aussi à une relation entre les directions métiers et les DSI, qui est assez humainement compréhensible. C'est-à-dire que lorsque vous avez un besoin, vous avez tendance à faire votre liste au Père Noël pour être sûr de tout avoir. Parce que vous vous dites, si je le demande pas tout de suite, je l'aurai pas après. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on observe, c'est que il y a une relation qui n'est pas forcément pertinente. Et en fait, cette liste au Père Noël, on implémente toutes ces fonctionnalités, mais elles ne servent à rien. Faut savoir qu'une fonctionnalité, ça a un coût environnemental, le fait qu'elle tourne sur un serveur même si elle n'est pas accédée. C'est même aussi un coût économique parce qu'il faut maintenir, par exemple, ne serait-ce que les librairies à jour pour éviter les failles de sécurité. Donc c'est une belle connerie. Avoir une sobriété, une réflexion sur ces sujets-là, il y a un vrai intérêt tant économique qu'environnemental pour les entreprises.
Il y a une autre dimension qui irrigue beaucoup ta réflexion, c'est l'accessibilité. Alors, on pense souvent à l'accessibilité dans le monde physique, mais beaucoup moins dans le monde virtuel. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette facette qui est vraiment très présente dans l'ouvrage et un petit peu comment ça se matérialise dans le monde virtuel justement?
Alors l'accessibilité, nous, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur et particulièrement moi. Faut savoir qu'il y a énormément de publics fragiles face au numérique en fait. Donc de numériser à tout va, c'est bien, mais pour paraphraser un rapport du Sénat sur l'électronisme, pas viser 100% de services accessibles, mais pas viser 100% de services digitalisés, mais 100% de services accessibles. Pour bien comprendre, il y a plusieurs types d'handicap. Alors le premier classique, c'est déficient visuel. C'est 1,5 million de personnes en France. Il y a des normes normalement pour les sites web pour permettre à un déficient visuel d'accéder à un site web. 80% des sites ne respectent pas ces normes. C'est scandaleux. Il y a un référentiel qui existe, qui s'appelle le référentiel RG2A, il y a un pendant qui est le WCAG en international, qui sont des référentiels qui existent depuis près de 10 ans, les entreprises doivent l'appliquer. Mais il n'y a pas que des déficients visuels, il y a des handicaps qui sont moins visibles, moins reconnus, mais qui en sont un réel par rapport au numérique. Les dyslexiques, par exemple, énormément de sites, de la manière dont ils sont designés, sont peu accessibles pour les dyslexiques. Un autre tout bête, les daltoniens, 4% de la population française sont daltoniens, ne distinguent pas les couleurs. Si vous saviez le nombre de process où c'est marqué saisissez les champs rouges, par exemple, pour un daltonien, c'est juste impossible. Ça paraît évident ce que je dis, mais pourtant c'est aujourd'hui pas appliqué. Et puis après, il y a toutes les personnes qui n'ont pas un bon accès réseau. On estime qu'il y a à peu près 10% de la population française qui a une mauvaise bande passante. Tout le monde n'habite pas en centre-ville, hein, énormément de gens habitent dans les territoires. Faut savoir que l'Île-de-France, c'est que 20% de la population, 80% des Français habitent dans les territoires. Et aujourd'hui, tout le monde n'a pas de la 4G, 5G, ou n'a pas de la fibre chez soi. Donc, il faut penser les dispositifs plus légers. Et enfin, la dernière forme, c'est l'électronisme. C'est toutes ces personnes, il y a à peu près 17% de la population française qui est en forme d'électronisme, comme j'aime souvent le dire, l'électronisme, c'est pas forcément les personnes âgées qui sont pas à l'aise avec l'outil numérique. C'est un cas de figure. Mais le plus grave, j'ai envie de dire, c'est tous les jeunes éloignés de l'emploi qui savent très bien chatter sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas utiliser un service numérique et se retrouvent exclus de procédures d'aides auxquelles ils ont le droit. Et ça, c'est un vrai problème de société, l'électronisme. Et en fait, quand vous sommez en fait l'ensemble de ces publics fragiles, ben, c'est pas loin de 30% de la population qui aujourd'hui est fragile face au numérique. Et donc, ben, il faut vraiment qu'on prenne ça en compte. C'est une urgence pour l'ensemble des organisations parce qu'on peut pas laisser ces gens-là de côté. Et puis, pour donner un élément de motivation pour les entreprises, ben, 30% de public qui accède mal à vos services numériques, c'est 30% de prospects en moins. Donc, si vous ne voulez pas le faire d'un point de vue vertueux, ben, faites-le au moins d'un intérêt économique parce que vous avez un vrai intérêt à le faire.
Ouais, c'est quand même énorme. Hein. C'est vrai que quand on somme effectivement les différents publics, on se rend pas compte, mais ça représente effectivement, comme je disais, 30% de la population. Il y a deux concepts qui ont retenu mon attention dans ton ouvrage et qui sont, je trouve, assez bien au cœur de ta démarche de numérique responsable. C'est la contrainte et l'utilité. Parce que ça correspond assez bien aux impacts sociaux et environnementaux. On va peut-être revenir sur chacun d'eux et peut-être pour commencer sur la contrainte. Quand tu parles de contrainte, qu'est-ce que tu as à l'esprit ?
Alors, j'aime pas trop le terme contrainte parce qu'on pourrait laisser entendre que le numérique responsable, c'est une contrainte. Je le vois pas comme ça. C'est-à-dire que je le réfléchis plutôt sous un angle un peu de recherche systémique d'impact. C'est-à-dire que sur chaque chose que je fais, quel impact ça a ? Pour prendre par exemple un exemple très concret, lorsque souvent vous designez une plateforme numérique, vous allez réfléchir à l'ensemble des fonctionnalités, prioriser en fonction d'un coût évidemment, mais également d'un apport métier. Nous, ce qu'on incite les entreprises, c'est rajouter quel est l'impact environnemental, quel est l'impact social, et prioriser en fonction de cela. Pour donner un exemple, par exemple, sur beaucoup de plateformes numériques, vous avez des recherches en autocomplétion. Donc à chaque fois que vous tapez un caractère, on fait des propositions. Ça, en termes d'impact environnemental, c'est une catastrophe. Chaque fois que vous tapez un caractère, c'est une requête qui transite sur le réseau, qui est exécutée sur le serveur, qui revient. Et vous vous rendez compte d'ailleurs que quand vous expliquez à la personne de la fonctionnalité qu'elle demande, l'impact que ça a, en fait, elle est super contente que vous lui expliquiez. Et elle va, dans 80% des cas, nous, elle va changer sa fonctionnalité. Donc en fait, c'est cette recherche systémique, plus qu'une contrainte, elle est vraiment essentielle. Et je pense qu'il faut intégrer tout cela dans nos réflexions, pas que les acteurs numériques, tous les demandeurs en fait.
Et par rapport à l'utilité,
quand on réfléchit sur propriété numérique, on a une règle qu'on aime bien appliquer, c'est la règle des 3 U, c'est de savoir pour chaque fonctionnalité de se poser la question, est-ce qu'elle est utile, utilisable, est-ce qu'elle va être réellement utilisée. Pour illustrer avec un cas concret, surtout tous les sites bancaires, vous avez une messagerie interne. La fonctionnalité est utile, on peut se poser la question. Est-ce qu'elle est utilisable? Elle n'est pas du tout au niveau d'ergonomie de ce qu'on peut attendre d'un outil de messagerie en fait au quotidien. Est-ce qu'elle est utilisée? Quasiment pas. C'est une fonctionnalité qui n'aurait jamais dû avoir lieu d'être mise en place. Et donc à chaque fois, c'est de se poser la question de cette utilité. Et je pense que c'est une bonne réflexion à avoir en termes de sobriété. Et ça évite d'aller implémenter tout un tas d'utiliser tout un service qui ne sert pas forcément.
En fait, là, c'est vraiment difficile en fait pour une entreprise de se dire bon, est-ce que c'est utile ou pas, parce que généralement on se dit toujours je vais anticiper les besoins. Donc comment est-ce qu'on peut contrer cette tension qui peut y avoir entre anticiper le besoin client et l'utilité d'un service qu'on peut proposer?
Bah, c'est en se posant cette question de la règle des 3 U, déjà, je pense que ça permet de rationaliser. Nous, on se rend compte qu'en moyenne, ils retirent à peu près 17%.
Quels pourraient être les quelques leviers sur lesquels une entreprise peut agir pour se diriger vers un numérique responsable?
Déjà, c'est de se poser la question. C'est déjà de se dire, moi, j'ai envie d'avoir un numérique qui correspond à mes valeurs, qui soit plus respectueux à la fois des personnes et
de la
planète, et donc
de
mettre en place une éco-conception systématique, de rendre les sites plus accessibles, plus inclusifs, etc. Et aujourd'hui, la majorité des entreprises ne se posent pas la question.
Un risque.
Le problème, c'est que c'est encore perçu comme quelque chose en plus. Les gens voient ça comme « Ah, je suis déjà en retard, j'ai problème de budget, etc. sur ma transformation numérique, alors si en plus je dois faire du numérique responsable, c'est pas quelque chose en plus, c'est rien en plus, c'est de faire différemment, c'est de faire mieux. » Et d'ailleurs, il y a un lien direct. En général, les entreprises qui ont intégré une notion d'éco-conception d'accessibilité dans leur démarche projet, vous vous rendez compte qu'en fait, ce sont des bonnes pratiques qui font qu'elles vont avoir une plateforme numérique beaucoup plus maintenable, beaucoup plus économe dans tous les sens du terme. Et en fait, elle est beaucoup plus durable, mais pas que d'un point de vue environnemental. Et donc, c'est très sain, c'est même la bonne manière de faire. Par contre, c'est pas si simple que ça, parce que, comme je le disais, beaucoup d'acteurs ne sont pas formés. Aujourd'hui, on a besoin de former l'ensemble des acteurs à ces notions-là. On a aussi besoin d'outils qui nous permettent de mesurer, de s'assurer que ce qu'on fait est bien et de se mettre en mode d'amélioration continue.
Budget, etc. Sur ma transformation numérique. Alors, si en plus je dois faire du numérique responsable, c'est pas quelque chose en plus. C'est rien en plus. C'est de faire différemment. C'est de faire mieux. Et d'ailleurs, il y a un lien direct. En général, les entreprises qui ont intégré une notion d'éco-conception d'accessibilité, dans leur démarche projet, vous vous rendez compte qu'en fait, ce sont des bonnes pratiques qui font qu'elles vont avoir une plateforme numérique beaucoup plus maintenable, beaucoup plus économe dans tous les sens du terme. Et en fait, elle est beaucoup plus durable, mais pas que d'un point de vue environnemental. Et donc, c'est très sain, c'est même la bonne manière de faire. Par contre, c'est pas si simple que ça, parce que, comme je le disais, beaucoup d'acteurs ne sont pas formés. Aujourd'hui, on a besoin de former l'ensemble des acteurs à ces notions-là. On a aussi besoin d'outils qui vont permettre de mesurer, de s'assurer que ce qu'on fait est bien et de se mettre en mode d'amélioration continue. Sortir une plateforme idéale tout de suite, je n'y crois pas. Tout est histoire d'amélioration continue. Donc, faut vraiment que les entreprises se mettent dans ce schéma-là urgemment, parce que celles qui le feront tout de suite, elles prendront clairement un avantage concurrentiel sur tous les autres, parce que toutes les entreprises y viendront. Ça, j'en suis intimement convaincu. Elles y viendront. C'est une vraie révolution du numérique qui est en train de s'opérer. C'est le numérique qui s'opère sa propre révolution, finalement. Après avoir disrupté l'ensemble des secteurs, il doit lui-même se disrupter. Tu parlais d'outils, justement, pour mesurer un petit peu. Ça permet de parler un peu de Frugger, justement. Est-ce que tu peux expliquer le principe?
Frugger, c'est parti justement de cette idée assez simple, c'est de se dire qu'on développe des plateformes numériques à un meilleur impact, comment on le vérifie, et puis comment on se met en mode d'amélioration continue. Et donc, on avait un peu regardé le marché, il y avait différentes petites solutions qui permettaient de macro-évaluer une page web, mais ça restait basique, c'était bien, des outils de sensibilisation, voilà. Donc, ne trouvant pas notre compte, on s'est lancé dans le développement en R&D en propre. On a investi beaucoup d'argent dans les R&D de cet outil-là. L'objectif de Frugger, c'est quoi? D'avoir une mesure la plus précise possible de l'empreinte environnementale et de l'empreinte sociale des services numériques des entreprises. On a ensuite une plateforme Frugger Analytics qui va permettre d'analyser l'ensemble des KPI. On va avoir des indicateurs comme dépenses en électricité, en eau, les gaz à effet de serre, des indicateurs d'accessibilité, d'inclusivité. Et on est capable de descendre à un niveau fonctionnalité page d'une plateforme numérique, voire composant qui pose problème. Et donc là, c'est vraiment de se mettre dans une amélioration continue. Donc, on a vraiment un scoring très précis de l'empreinte environnementale, de l'empreinte sociale, de l'ensemble des plateformes d'une entreprise. Et on a pensé l'outil, entre guillemets, plug and play, pour que l'ensemble des organisations puissent déployer ça facilement sur tout leur système d'information. Donc, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est utilisée par des comptes comme l'ADEME, comme L'Oréal, comme BPCE, plutôt des grands comptes qui ont déjà lancé cette transformation numérique responsable. Je crois beaucoup dans la montée en puissance de ces types d'outils. Demain, toutes les entreprises devront avoir ce type d'outils parce que on peut pas mener une démarche avec de l'éco-conception, l'accessibilité si on n'a pas une solution pour mesurer. On peut pas définir une feuille de route numérique responsable. On peut donner des ambitions, mais comment on peut définir le chemin pour arriver à l'objectif si on connaît pas le point de départ? La première chose à faire, c'est de mesurer. Pareil, bête ce que je dis, mais c'est un basique en fait. Pour citer Lord Kelvin, il n'y a pas d'amélioration sans mesure. Voilà, c'est une évidence. Donc toutes les entreprises devront se doter de ce type d'outils et demain, je pense que de toute façon, les principaux assets digitaux seront soumis à un espèce de Nutri-Score où ils devront afficher en toute transparence l'empreinte environnementale de leur plateforme numérique.
C'est une sorte de bilan carbone du numérique en fait.
Ouais, de façon plus dynamique parce que le bilan carbone a deux inconvénients. Le premier, c'est que il est le fait qu'il ait été rendu obligatoire, on en a fait un côté un peu administratif. On le fait une fois par an et très statique. Pour moi, si on veut si on veut vraiment améliorer son empreinte, faut être en mode d'amélioration continue. Il faut des outils qui soient capables de mesurer de façon automatisée, des outils beaucoup plus innovants, plus agiles. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point du bilan carbone, à date, faut savoir que il y a une obligation que sur scope 1 et scope 2, c'est-à-dire que sur vos émissions directes. Pour la majorité des secteurs d'activité, 80% de notre empreinte carbone, c'est du scope 3. Aujourd'hui, le bilan carbone, c'est juste un foutage de gueule. Je le dis avec mes mots, c'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. Alors après, pour modérer un peu, c'est compliqué de mesurer ces émissions indirectes. Et donc, parce qu'en fait, vous devez demander à toutes vos parties prenantes, donc vos sous-traitants, vos partenaires, de vous donner aussi leur empreinte environnementale, qui ne calcule pas forcément, parce que par exemple, un grand compte qui est soumis à un bilan carbone, il travaille avec plein de PME qui, eux, ne sont pas soumis à ces obligations-là, ils n'ont pas forcément les moyens de faire ces mesures, en fait. Mais il faudra intégrer le scope 3, parce que c'est ce qui est le plus important, d'une part, et c'est ce qui tirera tout le monde vers quelque chose de plus vertueux. Et donc, il y a plein de solutions qui vont permettre d'améliorer cette mesure dynamique d'un bilan carbone. Et tant mieux. Et ça, demain, il y a une vraie volonté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le bilan carbone, voilà, je le vois plutôt, moi, comme une tâche administrative, entre guillemets, qui, en plus, est, finalement, qu'un petit sous-ensemble, pas forcément grosse valeur. Sur Frogger, hein, nous, c'était un des postulats, c'était intégrer le scope 3. On avait plusieurs postulats. Le premier, c'était intégrer le scope 3, parce qu'on veut vraiment se mettre en amélioration. Et le deuxième, c'était, si je veux faire l'amélioration continue, il faut que j'ai un outil qui soit capable de mesurer de façon automatisée. Donc, on a réussi à automatiser une ACV, ce qui est assez complexe, voilà. On le fait que sur le numérique, hein, on ne sait pas faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur. En tout cas, on le fait de façon très pointue sur le numérique.
Dans cette deuxième partie, Frédéric prodigue quelques bons conseils pour s'engager dans la voie du numérique responsable. Vous verrez, souvent, c'est plein de bon sens.
Quand on regarde, justement, on va se focaliser là sur les entreprises productrices et les entreprises consommatrices de services. Quels pourraient être les conseils pratiques que tu pourrais donner à une ESN, par exemple, qui voudrait se lancer un petit peu dans ses réflexions sur le numérique responsable?
Première chose, se doter d'un outil de mesure. Il y en a plein, il y en a de plus en plus sur le marché, tant mieux. Deuxième chose, former ses collaborateurs. Aujourd'hui, ils n'ont pas été formés, voilà.
T'as quelques recommandations de formation comme ça en tête, là?
Il y a trop peu d'acteurs qui sont capables de faire les formations en date. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des ressources en ligne. Vous avez les MOOC de l'INR ou le MOOC de l'INRIA, du RISA, pardon, qui sont super sur le numérique responsable. Ce sont des... C'est du contenu gratuit, très riche, très bien fait, je vous incite à le faire. Ensuite, il y a de plus en plus d'organismes de formation qui commencent à se monter pour former au numérique responsable. Par exemple, il y a les personnes de MIR qui font des super formations au numérique responsable. Il y en a plein d'autres comme ça, plein de consultants, notamment indépendants, qui commencent à le faire, et c'est super. Je pense qu'on aura besoin de plus gros organismes. Donc, c'est en train de monter en puissance. Je pense qu'on n'a pas assez d'expertise encore dans le domaine, hein, très clairement. On est encore au tout début, mais en tout cas, c'est un axe important, et ça se fera au fur et à mesure, en fait. Ces entreprises, de toute façon, les entreprises SMIC vont avoir cette obligation, parce qu'aujourd'hui, leurs clients sont en train d'installer des outils de mesure qui vont vérifier justement le respect des bonnes pratiques. Est-ce que mon asset numérique n'est pas en train de créer une dette environnementale, une dette sociale? Et donc, ils vont demander à ces ESN de corriger cela. Donc, elles n'auront pas le choix. Mais même les ingénieurs en interne, ils ont cette demande-là. Moi, je veux travailler mieux. Je veux un travail qui fait plus de sens et je veux avoir le sentiment d'avoir un travail bien fait et qui respecte, nos ressources naturelles, qui respecte les personnes.
Donc, tu disais, première action, c'est se doter d'outils. Deuxième action, formation. Il y aura une troisième, éventuellement?
Communiquer en toute transparence. On le fait pas assez de dire ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien. Je pense que énormément d'entreprises auraient besoin plutôt que de faire un peu de green social washing et de poster des photos d'ingénieurs heureux autour d'un baby-foot, elles feraient mieux de publier des indicateurs concrets de façon très humble en disant ça je le fais pas bien, mais j'ai l'intention de le faire mieux. Déjà, je trouve que ça, d'indiquer que ce que vous faites pas bien, c'est déjà un premier élément. Enfin, nous, par exemple, hein, on publie notre rapport NAPAC, il est transparent, il est disponible sur notre site. Il y a plein de choses qu'on fait pas bien. Pourtant, on est une entreprise Impact Back Design, on est né avec cette volonté d'essayer de faire au mieux. Mais il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à bien faire. Et on peut pas tout adresser d'un coup. Mais au moins, on en a conscience, on le dit ouvertement, et on se donne des jalons.
Et si on prend là maintenant les entreprises qui consomment les services numériques, pareil, même question, quels pourraient être quelques conseils pratiques que tu pourrais leur donner?
Bah déjà, c'est on peut choisir où on consomme ses services numériques en fonction justement de cette empreinte en fait. C'est-à-dire que en tant que client, peut-être que moi, je vais aller sur un site e-commerce que s'il me publie concrètement son score environnemental et son score social. Je vais travailler avec telle marque parce qu'elle est plus vertueuse, elle me publie des indicateurs. Je vais comment dire travailler avec des sous-traitants qui pareil ont des dispositifs numériques qui soient le reflet de leurs engagements. Donc le numérique c'est le point de contact privilégié avec l'ensemble de nos parties prenantes. Donc s'il reflète pas ses engagements sociétaux et s'il n'a pas une bonne empreinte environnementale, une bonne empreinte sociale, il y a un problème. Et donc faut inciter toutes ces parties prenantes à agir en ce sens.
Dans le reste de l'épisode, je demande à Frédéric de revenir sur quelques-uns des 40 mots qu'il définit dans son ouvrage. La sélection est totalement impartiale et évidemment, j'aurais pu prendre beaucoup d'autres termes.
Alors là, ce que je te propose dans cette dernière partie, c'est qu'on regarde quelques termes que tu utilises dans ton livre, parce qu'en fait, j'en ai parlé au tout début, mais en fait, dans ton livre, tu reprends 40 termes. Alors tu pourras nous expliquer un petit peu comment tu les as sélectionnés aussi, parce qu'il y a vraiment de tout, hein. Il y a des termes qui sont très évidents, des termes beaucoup plus techniques. Et pour chacun de ces termes, tu donnes une définition. Il y a toujours une petite pointe d'humour aussi. Il y a une petite image, des chiffres qui font toujours assez peur d'ailleurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur quelques termes. Il y en a un que t'as utilisé. Donc pas la peine qu'on y revienne. C'est l'électronisme. Peut-être commençons par un concept dont on entend de plus en plus parler quand on parle de numérique responsable, c'est la sobriété. Qu'est-ce que tu mets derrière le concept de sobriété?
Bah, la sobriété, c'est véritablement de mettre en place ce dont on a besoin, en fait. C'est-à-dire que arrêter d'utiliser tout un tas de ressources au cas où, alors qu'on va pas les utiliser. D'ailleurs, dans le livre, je fais opposition entre sobriété et frugalité, où ça va encore plus loin. Le concept de frugalité, là, c'est là, je me mets sous contrainte quelque part. Je veux vraiment utiliser le strict minimum, voilà, être dans un esprit presque low-tech, et voilà. Donc, je pense que c'est un état d'esprit important que l'ensemble des acteurs doivent prendre en compte. Et à chaque fois se poser ces questions de sobriété, et dans le numérique, c'est encore plus vrai. On a une tendance à mettre en place des choses excessivement complexes, qui sont tout sauf sobres, qui vont faire des requêtes à tout un tas de systèmes dans tous les sens, pour être peu utilisés, pour alourdir même, au-delà d'alourdir le point environnemental, même ça alourdit la complexité du parcours, parfois ça crée des points de rupture. Donc voilà, donc il y a une vraie réflexion, enfin, c'est un des axes clés, la sobriété, pour agir différemment.
Deuxième terme, l'obsolescence. Alors c'est pareil, t'en as déjà un petit peu parlé. Comment tu le définis?
Bah, l'obsolescence, qui peut être voulue ou non voulue, c'est je rends finalement un matériel, un service plus utilisable pour différentes raisons. Le cas typique, hein, c'est les fabricants, par exemple, de smartphones. Apple en est un spécialiste de l'obsolescence. Il va à un moment donné ne plus supporter les vieux iPhones pour vous inciter à renouveler votre équipement. Ou alors, il va même faire des choses qui sont illégales. Il va publier en fait des versions logicielles de son système d'exploitation qui est iOS, qui vont alourdir et ralentir. D'ailleurs, il avait été condamné par l'Union européenne pour ça, qui vont ralentir le fonctionnement de votre vieux iPhone. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. C'est pareil pour Android, hein. Je sais pas pour tirer sur Apple, c'est la même chose. Faut savoir que vous pouvez pas mettre les dernières versions d'Android sur les vieux smartphones. Le seul fabricant à le faire, c'est Fairphone, qui justement, malheureusement, est le seul fabricant en date qui, lui, a cette volonté d'avoir un smartphone plus responsable. Il va garantir qu'il va permettre d'installer sur vos vieux Fairphone les toutes dernières versions d'Android.
Et beaucoup plus réparable aussi pour
Et
faire
en
des
plus, il joue exactement sur la partie réparabilité, éviter d'avoir aussi des pièces soudées. Ça, c'est une spécialité, c'est-à-dire que vous pouvez pas changer la pièce parce qu'elle est soudée avec la carte mère, etc. Et donc, vous êtes obligé de changer tout le matériel. Donc, il y a un vrai sujet, et cette obsolescence, elle existe aussi sur le logiciel, hein, indirectement lié d'ailleurs à l'éco-conception. C'est-à-dire que quand vous allez développer une plateforme sans avoir cette réflexion d'éco-conception et donc être beaucoup plus lourde, qui va réclamer beaucoup plus de puissance matérielle, vous allez rendre obsolescent un certain nombre d'équipements, et ce qui est dommageable parce que ces équipements qui fonctionnent parfaitement, qui sont même souvent des bijoux technologiques, et donc là on a un vrai sujet. L'obsolescence est extrêmement liée à l'éco-conception, extrêmement liée à ce levier clé qui est d'allonger et de réduire les équipements, qui est encore une fois la fabrication et le premier poste d'empreinte environnementale du numérique.
Alors le troisième terme, c'est un terme chacun le prononcera comme il veut. Moi je dis les D3E, mais bon on peut dire DEEE aussi. Hein. Et là on est plus sur la partie hardware, donc les devices dont tu parlais un petit peu tout à l'heure. Comment tu le définis ?
Pourquoi c'est important aussi ? Aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de réfléchir. Alors, il y a une règle un peu des 5 R. Hein, j'ai toujours voulu faire un 3U, 5 R. Non, c'est déjà avant d'acheter un équipement, c'est de réfléchir à ce que j'en ai vraiment besoin. Et puis, une fois que j'en ai plus besoin, comment je peux finalement le donner à quelqu'un d'autre qui pourra en avoir besoin, et comment je le recycle intelligemment. Nos déchets électroniques, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a des obligations légales. En Europe, toute entreprise doit recycler l'ensemble de ses déchets électroniques. Faut savoir que malheureusement, sur les études qu'on voit, toutes ne le font pas. Il y a aussi un gros problème dans cette filière, c'est parce qu'on a une tendance à se débarrasser, on en voie de développement, tous ces déchets électroniques qui sont censés les recycler, le font pas. On crée d'énormes décharges, par exemple en Afrique, qui viennent polluer en plus l'environnement dans des régions où en fait les personnes locales vivent de rivières, etc., qui sont totalement polluées par tous ces déchets. Donc c'est un vrai problème. Il faut qu'on se responsabilise. Déjà, il faut arrêter d'envoyer un peu partout nos déchets. On doit les traiter nous-mêmes. Il y a une réflexion qui est à faire sur la fabrication, parce que aujourd'hui, pour prendre un exemple, pour fabriquer un smartphone, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des métaux rares. Ce sont des ressources qui sont très rares, dont certaines vont arriver à épuisement en France, à travers le monde. Parce qu'on a très peu de métaux rares en France, mais malheureusement, elles proviennent beaucoup de Chine ou d'autres pays. Ces métaux rares, déjà, il y a une empreinte environnementale sociale à les extraire. Je vous invite d'ailleurs à lire un excellent livre de Guillaume Pitron sur la guerre des métaux rares, pour comprendre un peu tous ces enjeux. Aujourd'hui, s'ils sont tellement tout petits, en fait, qu'on miniaturise de plus en plus, on n'arrive pas à récupérer ces métaux rares quand on recycle un équipement. Donc, je pense qu'il faut penser dès la fabrication, de dire, OK, demain, quand j'aurai besoin, et là, un peu ce que fait Fairphone dans la réparabilité, d'aller encore plus loin, penser à son recyclage, comment je fais en sorte de récupérer plus simplement, en fait, l'ensemble de ces métaux rares. Donc, il y a une vraie réflexion globale de toute la chaîne de valeur qui est à opérer pour faire en sorte que, justement, ces ressources qui sont à la fois des ressources épuisables et à la fois les extraire, les raffiner, ont une empreinte environnementale forte, et bien, faut être capable de récupérer rapidement. Puis après, il faut que toutes les entreprises se responsabilisent. Aujourd'hui, on peut faire vraiment beaucoup mieux, quoi. Franchement, c'est pas se dédouaner en balançant tous ces déchets électroniques en vérifiant même pas, par exemple, qu'ils soient recyclés ou pas. Aujourd'hui, on est responsable de tous ces actes et même de l'ensemble de la chaîne. Donc, les entreprises doivent aller vérifier que le partenaire à qui il a confié ces déchets, est-ce que véritablement il les a traités de façon vertueuse? Est-ce qu'il y a eu véritablement un démontage utilisant un recyclage? Voilà.
Il y a un chiffre dans l'ouvrage que j'avais trouvé ahurissant, c'est on change de smartphone tous les 23 mois en moyenne en France. C'est fou, c'est complètement fou. Enfin, moi j'aime bien depuis 5 ans, je me dis c'est fou en fait, et de se dire en fait, généralement on change mais pas pour de bonnes raisons, et puis c'est vrai qu'on sait absolument pas ce qui se passe derrière. Au mieux on le garde dans un tiroir, au pire effectivement il est jeté à droite ou à gauche. C'est vrai qu'il y a une Il y a une démarche que de plus en plus d'entreprises font, c'est de se dire, bon, bah voilà, on vous donne un ordinateur, on vous donne un téléphone portable, en fait, vous allez le garder 5 ans. Bon, ok. C'est pas mal aussi, hein, d'allonger la durée de vie d'utilisation. Le dernier terme, ce que je disais, l'électronisme, tu en as déjà pas mal parlé, le dernier terme, c'est Green IT. On en entend de plus en plus parler, mais c'est absolument pas nouveau. Mais qu'est-ce que tu mets, toi, derrière le concept de Green IT? Et en parallèle, il y a un autre terme qui est peut-être plus technique, mais je pense est intéressant à la fois pour les ESN, les DSI ou les équipes métiers qui sont sur des projets numériques, c'est le terme de phase de projet. Parce que finalement, le Green IT peut intervenir à différentes phases de projet.
Alors, le Green IT, c'est un petit sous-ensemble du numérique responsable. C'est tout simplement comment je fais en sorte que j'ai un numérique qui soit plus respectueux de la planète. Donc, ça revient, c'est travailler notamment sur les aspects d'éco-conception. Donc, par opposition, on a l'IT for Green. Hein, c'est en quoi le numérique peut être aussi une solution à la transition énergétique. Parce que on parle un peu anxiogène de discussion, finalement, on parle beaucoup des externalités négatives du numérique, mais il y a aussi des externalités très positives. Donc le Green IT, on en parle depuis longtemps, on commence à appliquer que maintenant. Tant mieux, on va positiver, on a pris conscience de cela. Donc il y a une nécessaire prise de conscience et ça se travaille très en amont. Très clairement, dès la phase de recueil des besoins, on revient à la notion de sobriété, posez-vous la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce service numérique ou pas, cette fonctionnalité? Le meilleur moyen de faire du Green IT, c'est déjà de pas le faire. ensuite, c'est dans le design, c'est la façon dont je vais penser la fonctionnalité. Donc, il y a à la fois au sens design, comme on l'entend d'un point de vue un peu artistique, contenu, etc., éviter d'avoir des images qui ne sont pas compressées, etc., pour avoir une sobriété dans le design et surtout des bonnes pratiques. Et puis également après, dans l'implémentation technique, d'appliquer les bonnes pratiques en termes de développement d'éco-conception. Éviter d'aller redire avec tout un tas de... Par exemple, de librairie que j'embarque mais qui sert pas, que j'embarque au cas où, de factoriser son code. Il y a tout un tas de bonnes pratiques à appliquer qui ne le sont pas aujourd'hui, qui sont pas vérifiées, qu'il faut appliquer. Donc le Green IT, il va vraiment être sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Après, c'est vraiment un cycle et c'est une amélioration continue. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai publié une première version d'application, déjà elle va vivre, donc faut continuer à se poser des questions, mais faut chercher à améliorer. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe réellement en termes de fonctionnement. Est-ce que c'est accédé de la façon dont je le pensais? Comment je peux optimiser l'utilisation de ressources matérielles tant sur l'équipement utilisateur que sur qu'au niveau data center? Donc, c'est vraiment toute cette chaîne globale qu'il faut améliorer et c'est sur l'ensemble des phases du projet. Donc, il y a... On en revient au point de voir, voilà, former, monter en maturité l'ensemble des personnes. Mais c'est quelque chose qui est en train de se développer enfin, et c'est plutôt une excellente chose.
Alors, tu as publié ton ouvrage l'an dernier. Est-ce qu'il y aurait un mot que tu rajouterais aujourd'hui?
On pourrait rajouter le mot du métavers pour faire un peu d'actualité. C'est à la fois une innovation technologique, un mouvement qui est en train de s'opérer, mais ça pose quand même plein de réflexions parce que vous vous doutez bien que l'empreinte environnementale du métavers, elle n'est pas vraiment bonne. L'empreinte sociale, on peut aussi se poser des questions. Si on ne sort plus et qu'on vit tous dans un monde virtuel, je pense qu'on va tous devenir fous. Voilà, donc il y a dans cette... Ça fait un lien avec l'innovation vertueuse, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas pour freiner l'innovation. Ça, c'est une bêtise. Je suis pour l'innovation. C'est comme toujours, il y a une balance entre externalité négative et positive. Je pense que l'innovation a plus d'impact positif que négatif. Donc voilà. Par contre, on doit avoir cette réflexion d'innovation vertueuse. Et donc on peut se poser la question, quel métavers je veux demain? En tout cas, il faudra qu'il soit éco-conçu, parce que déjà qu'il va y avoir une empreinte environnementale pas terrible, il faudra vraiment l'éco-concevoir. Il faudra penser aussi aux impacts sociaux, ils sont pas neutres, ils sont même très forts. Donc voilà, ça pourrait être ce mot-là qu'on pourrait ajouter pour aider à tout à chacun de comprendre ce que c'est un métavers, mais ce que c'est aussi en termes d'impact, ce que ça donne au niveau du mail.
Très bien, effectivement, c'est très d'actualité, donc c'est parfait. Je termine toujours par un choix musical. C'est une tradition que j'ai instaurée dans la newsletter et que je perpétue dans le podcast. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un morceau qui soit c'est un coup de cœur musical du moment ou alors c'est un morceau qui reflète ton état d'esprit par rapport au sujet qu'on a traité sur le numérique responsable ou même sur un autre sujet qui te tient à cœur?
Ah, c'est une question un peu. Alors, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Grand Corps Malade, qui fait des chansons avec des paroles voilà, très, très engagées. Il y en a une notamment qu'il a écrite et qui est très belle sur les femmes.
Mesdames, c'est quelques mots comme
voilà,
à votre jante que
c'est une très belle chanson.
Au cinéma
sur,
ou dans la vie,
le plaisir de l'écouter que sur les paroles.
Et sans le vouloir, cœur et nos pensées.
J'ai une deuxième musique que j'adore, qui.
Mesdames,
en fait, moi, j'aime bien, j'aime les choses simples, j'aime les bonheurs simples de la vie. Alors, ça fait toujours un peu marrer mes amis. Moi, je suis un grand fan de Gilbert Montagné. Je l'assume. Alors, c'est pas pour le côté musical poussé, on va dire, hein, c'est sûr. Mais il respire la joie de vivre. Des chansons comme On va s'aimer, et ben j'adore, moi ça me donne une pêche pas possible. Et parfois on a besoin aussi de la musique c'est aussi ça, c'est d'avoir la pêche, et d'avoir du positif, donner de l'énergie, et en toute simplicité, moi j'aime bien, voilà. Donc je suis un grand fan.
Ben non mais c'est parfait, parce que c'est vrai que comme on a parlé quand même de choses assez, assez anxiogènes, finir par Gilbert Montagné, c'est quand même plutôt positif, ça donne du soleil, ça donne du baume au cœur. En tout cas, un grand merci Frédéric pour cet échange. Alors tu as cité pas mal de lois, d'ouvrages ou autres, donc je les listerai tous à la fin et sur le site aussi pour que tout le monde puisse les retrouver, parce que c'est vrai que le sujet est assez complexe finalement, il y a beaucoup de dimensions différentes, mais je pense que cet échange me permettra d'éclairer quand même pas mal sur le sujet. Donc merci beaucoup et à une prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Merci à toutes et à tous de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est de me donner quelques étoiles, ça monte jusqu'à 5 sur Apple Podcast ou sur Spotify. Bizarrement, sur Spotify, ça ne marche que sur smartphone. C'est vraiment important pour améliorer le référencement et que d'autres puissent découvrir le podcast. Donc s'il vous plaît, je vous remercie de le faire. Pour ne rien rater des prochains épisodes, le mieux, c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez envie d'échanger sur le sujet des entreprises à mission, éventuellement vous faire accompagner pour le devenir, vous pouvez me retrouver sur la newsletter de la Machine à Sens, machineasens.substack.com ou sur LinkedIn. Je vous remercie de nouveau et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.